Épilogue. Henry James détestait les épilogues et se refusait à en faire usage dans ses œuvres de fiction. Si la vie ne donnait pas droit aux épilogues, pourquoi les arts et la littérature s'en octroieraient-ils le privilège? La vraie vie, comme il ne le savait que trop bien, n'était qu'une longue suite de tracas. Dans la vie, on n'avait pas le luxe des conclusions et encore moins celui des rappels après le baisser de rideau. Moi non plus, je n'aime pas les épilogues, tout comme vous peut-être. Mais il y en a un à la fin de ce livre et nous allons devoir nous en accommoder. Henry James n'en pouvait plus d'ennui le dernier soir de la traversée en haute mer. Le vapeur United States allait arriver à Portsmouth, où il ferait escale avant de continuer jusqu'à Gênes. Et James avait décidé de rester jusqu'au bout du voyage pour aller voir William, Alice et leurs enfants à Lucerne. Le temps était idéal, la mer si calme que les passagers et même l'équipage s'en émerveillaient continuellement. Désœuvré, James n'avait pas envie de jouer au backgammon ou autre jeu de société abrutissant qui se disputait dans les parties communes. Cela lui laissait la lecture, alors il lisait, soit dans sa plaisante cabine, soit sur l'agréable transat qui lui était réservé sur le pont, jambes enroulées dans une couverture, ou pendant le déjeuner qu'il prenait seul. Le soir, il dînait à une table de personnes importantes où on l'avait placé, mais ses passagers n'étaient importants que dans le monde des affaires, la conversation ne l'inspirait pas beaucoup, et il se contentait de quelques hochements de tête polis. Il réfléchissait beaucoup à sa pièce et s'agaçait du temps que lui faisait perdre cette traversée, alors qu'il aurait dû écrire. Ce quatrième soir, donc, appuyé à la rambarde d'acajou du pont des premières classes, d'où il admirait le sillage du bateau et le magnifique spectacle des derniers rayons du couchant sur l'Atlantique, James eut un coup au cœur en s'apercevant qu'un autre passager s'était approché de lui.
« Holmes !»
s'exclama-t-il en regardant aussitôt de tous côtés pour s'assurer que personne n'avait remarqué son éclat de voix déplacé. Le détective n'avait plus le bras en écharpe, mais sa main droite était toujours bandée.
« Que faites-vous ici ?»
demanda James.
« Où allez-vous »
« Eh bien, il me semble que ce navire s'arrête à Portsmouth avant de continuer vers Gênes, » dit le détective posément. Il semblait avoir maigri et était beaucoup plus pâle qu'en Amérique.
« Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ?»«
Que j'avais pris un passage sur le même bateau que vous pour rentrer en Europe ?» acheva Holmes à sa place avec son sourire furtif. Je me suis dit que vous ne seriez pas enchanté de me retrouver. J'avais l'intention de rester discret pendant la traversée jusqu'à votre port de destination, quel qu'il soit, et de ne pas vous révéler que j'étais à bord.
Mais où vous cachiez-vous ?
Holmes eut encore le léger mouvement de lèvres qui ne s'achevait jamais par un réel sourire. Si vous voulez connaître l'abjecte vérité, Harry, je suis resté terré dans ma cabine pendant 4 jours et 4 nuits, occupé à rendre tripes et boyaux, tout en retenant des hurlements de gorilles pris dans un feu de jungle. James recula d'un pas en entendant ce langage par trop imagé.
Mais la traversée a été on ne peut plus calme. Une mer d'huile. Même les vieilles dames qui se sentent mal si leur tasse de thé remue un peu trop sont restées en pleine forme.
Holmes hocha la tête et James vit que la sueur perlait sur son front malgré l'agréable fraîcheur et le courant d'air généré par le mouvement du bateau. J'ai décidé de me passer de ce médicament héroïque dont je me faisais plusieurs piqûres par jour depuis mon arrivée en Amérique, confia Holmes. Vous ai-je jamais donné le nom exact de cette solution d'héroïne ?
Non, je pensais que vous... Au fond, je ne sais trop ce que je pensais.
Peu importe, reprit Holmes. Je n'en ai pris que pendant 2 mois, mais même ainsi, le sevrage de cette substance est une épreuve terrible. Il est possible que je voie le docteur Watson dans les mois qui viennent, et il m'en voudrait beaucoup s'il me retrouvait sous l'emprise d'un nouveau poison.
Alors vous avez renoncé à l'usage de cette drogue héroïque pour de bon ?
Absolument, mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler, James.
Eh bien ?
Eh bien, après avoir passé 4 jours et demi et 4 nuits à être malade comme un chien, j'ai soudain recouvré mes esprits et j'ai compris pourquoi vous aviez l'air si défait et préoccupé pendant nos derniers jours en Amérique. James détourna la tête et sentit une aigreur lui monter dans la bouche.
« C'est à cause de ce que j'ai fait, bien sûr, » dit-il enfin. « Jamais je ne m'en remettrai. »
« Et qu'avez-vous fait au juste ?» James retrouva un peu de sa pugnacité et fit face à Holmes une étincelle dans ses yeux gris.
« J'ai tué un homme, Holmes, voilà ce que j'ai fait. J'ai tiré sur un autre être humain et je l'ai tué. L'homme était un criminel et il méritait de mourir. Et je ne suis pas un bourreau. Je suis un artiste, un créateur, et non,
Il n'acheva pas.
« C'est bien ce que j'ai cru comprendre, » dit Holmes. « Et vous êtes fou ?»«
Vous auriez dû aller à la réunion de bilan qu'ont organisé Drummond, le colonel Rice et leurs collègues après ces désagréables événements au lieu de vous faire excuser. »«
Où voulez-vous en venir, Holmes ?»
Le détective lui montra sa main et son poignet bandé.
« Votre balle n'a tué personne. »
Elle a traversé la manche de Lucas Nadler au moment où il allait me poignarder et probablement ralenti son geste et permis de me sauver la vie. Puis elle a continué sa route en éraflant le dos de ma main pour finir sa course dans le lac.
Vous n'êtes pas responsable de sa mort.
Terrassé par le soulagement, James crut se trouver mal et eut envie de pleurer. Il retint ses larmes en serrant de toutes ses forces la rambarde entre ses mains et en se concentrant sur le soleil qui disparaissait à l'horizon.
« Je voulais aussi vous montrer quelque chose, » reprit Holmes. « En arrivant au bout de ma petite expérience de désintoxication, je me suis souvenu que j'avais oublié de vous parler de deux télégrammes importants que j'ai reçus à New York peu de temps avant que nous ne prenions la mer. »
Holmes sortit les deux dépêches de sa veste. James, qui pourtant respirait librement pour la première fois depuis l'attentat manqué, eut peur de ce qu'il allait entendre.
« Le premier est de notre ami Monsieur Drummond, envoyé à titre purement informatif, » dit Holmes en dépliant le télégramme avec une certaine difficulté à cause de sa main bandée. « Je vous le lis. Suis au regret de vous annoncer qu'Irène Adler nous a échappé à l'infirmerie de l'exposition le lendemain de votre départ de Chicago. Stop. Les gardes ont retrouvé ses cheveux coupés très courts et l'un de leurs collègues attaqué, déshabillé, attaché et bâillonné, puis enfermé dans un placard. Stop. »
Irène Adler est partie sans doute déguisée en homme et portant un uniforme de la garde colombienne. Stop. Avis de recherche lancé pour une femme portant le bras gauche en écharpe. Stop. Elle pourrait être armée et est considérée extrêmement dangereuse. Stop. Drummond.
James fut pris d'un rire irrépressible. Holmes se joignit à lui, ce qui ne fit qu'amplifier l'hilarité de James. Il aurait été incapable de dire ce qui l'amusait tant. C'était simplement qu'il avait l'impression de retomber les pieds sur terre. Le deuxième télégramme que j'ai reçu à New York, juste avant le départ, va vous ôter l'envie de rire, James, je vous assure.
Holmes déplia le papier et lut lentement d'une voix un peu plus grave que d'ordinaire.
Il m'a été adressé par mon frère Mycroft, qui ne se préoccupe jamais de compter les mots malgré le coup. Je suis comme lui.
Donc, de Mycroft.
Sherlock, il est impératif que tu continues jusqu'à Gênes à bord de l'United States, puis que tu remontes vers la Suisse pour aller à Lucerne au plus vite. Stop. J'y serai dans 10 jours. Stop. C'est une conférence d'importance internationale. Stop. Ta présence est essentielle. Stop. Mycroft.
Holmes replaça les dépêches dans sa poche et les deux hommes échangèrent des regards fatalistes.
Votre frère aîné et le mien? Tous les deux à Lucerne? Avec nous?
Commenta Henry James, consterné.
Difficile à concevoir.
En effet, répondit Holmes, lui aussi très abattu.
À cet instant, un jeune homme portant un gros manteau simplement posé sur les épaules et le visage caché par un grand feutre descendu bizarrement bas sur son front passa devant eux. Une voix claire les salua.
Bonsoir, monsieur Holmes.
James tourna vivement la tête, mais n'aperçut qu'un menton décidé, une pommette haute et des cheveux châtains foncés coupés à la militaire sur les côtés et l'arrière.
« Un ami à vous ?»
s'enquit Henry James. Le soleil avait disparu. Les lumières électriques du bateau s'allumèrent tout ensemble, éclairant brillamment le pont, un peu comme le soir de l'inauguration de l'exposition universelle de Chicago. Juste avant ce feu d'artifice, Sherlock Holmes avait eu le temps de voir, entre les pans du par-dessus, que le jeune homme portait le bras gauche en écharpe. Holmes prit Henry James par le bras et se pencha avec lui sur la rambarde. L'air marin était d'une fraîcheur enivrante.
« Il sera toujours temps de s'inquiéter de nos frères et de ce qui se passera à Lucerne quand nous y serons »,
dit-il d'un ton heureux que Henry James ne lui avait pas une seule fois entendu depuis qu'il avait fait sa connaissance par une nuit pluvieuse au bord de la Seine 2 mois plus tôt.
« En attendant, mon ami, » reprit Holmes, « cette traversée pourrait se révéler beaucoup plus intéressante que nous ne l'imaginions. »
Juin 2013, octobre 2014.